Cette semaine, dans le balado, on veut retrouver l'éclat de notre vingtaine, on ne doit pas quitter notre maison sous aucun prétexte et une amitié se brise. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton.
Salut, salut!
Salut Jeff, ça va?
Ça va très bien. Beaucoup de films cette semaine, on a eu un gros, une grosse semaine de visionnement.
Ouais, et chose curieuse, deux films réalisés par des Français, deux films
américains ouais.
anglophones réalisés par des expatriés.
La francophonie va triompher.
Oui.
Sans oublier toute l'équipe aussi, parce qu'évidemment, ils traînent, on y reviendra, mais ils traînent beaucoup de leurs camarades là-bas.
Tout à fait. Donc, dans les sorties de la semaine, un film qui crée un gros buzz depuis ses débuts à Cannes. On a bien hâte d'en jaser dans quelques instants. Mais avant, un petit mot de notre commanditaire.
Oui, encore cette semaine, la microbrasserie de l'Île d'Orléans, fondée en 2006, elle est située au cœur du village de Sainte-Famille sur l'Île d'Orléans, donc à seulement 15 minutes de Québec. Vous y trouverez un pub moderne d'inspiration rustique qui nous rappelle l'histoire de l'île d'Orléans. La terrasse couverte avec vue sur le fleuve et la côte de Beaupré se veut une halte à découvrir. On peut y déguster également le généreux menu bistrot pour agrémenter davantage notre plaisir. Mais ce qui distingue les bières de la micro de l'île d'Orléans, ce sont les saveurs surprenantes issues d'une eau de source incroyablement pure, des fruits produits localement et évidemment l'humeur du vent qui vient modifier tous ces arômes. Elle offre un peu d'histoire puisque chaque anecdote ou chaque aventure qui sont racontées sur les canettes sont authentifiées. Et d'ailleurs, vu qu'on enregistre plus tard qu'à l'habitude...
Tu enregistres sous l'influence?
Sous influence. Ben là, j'ai pas prébu, j'ai pas pré-drink avant le podcast. Je me suis pris une petite gauze fraise et basilic, mais j'ai pas d'anecdote parce que, en tout cas, d'où on enregistre, je l'ai pris en fût. Fait que j'ai pas d'histoire, mais j'ai mon verre officiel, la micro Charlebois. Fait que ça me fait plaisir... Je ferai pas des ASMR là, en buvant chaque... non, c'est trop dégueulasse. Mais c'est un délicieux plaisir aujourd'hui pour parler de trucs weird, de films étranges. La microbrasserie possède par-dessus tout le goût d'ici, ce qui sait plaire aux adeptes. J'en témoigne moi-même. Découvrez les différents points de vente dans toute la province en visitant le www.microorléans.com.
Excellent. Donc, justement, si vous nous écoutez en soirée confortablement assis chez vous, pourquoi pas aller vous chercher une petite fraîche.
C'est ça. Ou ceux classiques d'écouter des podcasts en auto, ben là, faites un crush par votre grande épicerie ou
surtout,
deb de micro.
Ne buvez pas en conduisant.
Non, non, c'est ça. Je veux dire, faites une réserve pour rentrer à la maison. Faut pas qu'il soit trop tard. Puis là, il est 10 heures le soir. Puis ben là, je veux plus y aller.
Donc, écoute, c'est très court cette semaine en termes d'actualité, mais je voulais quand même souligner la remise de différents prix dans deux festivals. Un qui se déroulait très, très proche de chez nous, à Québec, le Festival du cinéma de la ville de Québec. On a remis donc les prix ce dimanche qui était le 15 septembre. Oui, c'est ça. Donc, le Grand Prix, je le mentionne.
Vas-y, on les a regardés tantôt, mais j'ai pas noté.
D'accord. Alors, c'est le dernier repas que tu as eu l'occasion de voir. Hein?
Oui,
je me trompe
j'ai
pas,
vu. Je sais pas si ça sort la semaine prochaine, début octobre.
C'est le 27, oui.
Je ne suis pas sur le gun là-dessus, mais fait qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Mais oui, un très beau film sur un peu les origines haïtiennes de certains francophones, puis du dur temps. On l'a vu dans d'autres films un peu récemment, là, mais de quand Baby Duck, là, c'est quoi, La Vallée?
Les Chevaliers, famille.
C'est quelque chose comme ça?
Duvalier, oui, c'est ça.
Qui quand même terrorisait Haïti. Fait que c'est là le récit d'une personne qui est maintenant au Québec puis qui raconte un peu à sa fille avec qui il n'a pas eu de très bonnes relations, mais tout ça, ça dure là-bas. Fait que oui, un film très humain, comme on dit, très touchant.
Excellent. Et le choix du public, ça a été le coup de cœur du public, c'est Amal, un esprit libre, qui prend l'affiche
la semaine prochaine
les
aussi,
deux,
mais lui, je ne l'ai pas vu encore.
Moi non plus, qui porte sur le système scolaire français, il me semble. C'est une prof qui a des méthodes un peu
je pense que oui, mais je me souviens d'avoir vu la bande-annonce et tout, mais là, je n'ai pas appris par cœur. Comme dit, il y avait tellement de films cette semaine que j'étais un peu en mode une semaine à la fois. Là.
Non, moi, ça avait accroché, la prémisse m'avait accroché, parce que j'aime bien ce genre de film là. Sinon, du côté du TIFF à Toronto, on a aussi dévoilé les gagnants. Faut dire que les prix principaux ne sont pas donnés par un jury, mais vraiment, c'est le public qui vote. Okay. Donc, le Grand Prix coup de cœur du public, je pense que ça en a étonné plus d'un, parce qu'il y avait de gros buzz, surtout entourant Nora, là, qui a gagné la palme...
Nora,
la palme d'or à Cannes. Il y avait Night Beach aussi, avec Amy Adams. Mais finalement, c'est le film The Life of Chuck, de Mike Flanagan, qui est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King, plus dans la veine de Shawshank puis de Green Mile, là, plus du drame fantastique que de l'horreur, qui met en vedette Tom Hiddleston, qui joue un homme atteint là, d'une tumeur au cerveau. Fait que voilà, il n'y a pas de date, je pense qu'il n'y a même pas de distributeur encore officiel non plus, ce qui est un peu étonnant. Là, j'ai l'impression qu'avec ce prix-là, ça va sûrement se régler nécessairement. Parce
surtout
que...
un Flanagan, tu sais, c'est quand même, il fait beaucoup d'horreur, mais c'est un réalisateur établi que les gens vont vouloir voir ses films.
Oui, tout à fait. Puis Tom Hiddleston aussi, là, quand même un acteur bien apprécié. Du côté de catégorie Midnight Madness, c'est souvent... une catégorie plus de films marginaux. C'est une grande surprise.
Ben, le People's Choice, c'est The Substance.
Et qu'on voilà,
va
et voilà.
Dans quelques minutes.
Tout à fait. Et puis, meilleur film canadien, c'est Berger.
Ah oui, j'ai tellement de le voir, moi.
Moi aussi, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà pour les gagnants du côté du TIFF.
Il va sûrement. Je sais pas, est-ce que tu voulais parler de Cinémania ou pas nécessairement? Parce qu'ils ont commencé à annoncer les films qui vont avoir lieu.
Oui.
Puis je me demande si Berger va jouer. Là. Ce serait le genre de film qui pourrait encore y être, puisqu'en plus, une coproduction.
Mais est-ce qu'il va être déjà en salle?
Non, parce qu'il sort il sort le 15 novembre.
15 novembre, OK.
Cinémania, c'est plus fin octobre, je pense.
Non, c'est mi-novembre.
Mi-novembre.
Probablement que la première montréalaise reste peut-être.
Il y a des chances, quelque chose comme ça.
Donc, à suivre. Sinon, toi, t'avais-tu des petites nouvelles ou
je suis allé, c'est le Festival de l'Abitibi. Qui est fait un coup, je pense, c'est ça. Je suis fidèle à moi-même.
Bon, ben d'accord, restons sur The Substance qui met en vedette Demi Moore, qui est comme un gros comeback pour elle, qui était d'ailleurs dans un documentaire qui s'appelle Bratz, qui est sorti au début de l'été.
Ouais, sur comme les anciens enfants
le
stars
Brat Pack.
Un peu.
Ben, en fait, c'est sur le Brat Pack, vraiment, qui était la gang de Breakfast Club. Mais Jay Fox, c'était pas dedans.
Non, c'est Emilio Estevez.
Estevez, Rob Lowe, Moore, entre autres, Ali Sheedy. Donc, ceux qui étaient principalement dans les films de John Hughes.
Et Moore
et
était
Saint
pas
Elmo's
dans
Fire.
De...
Non, il était pas dans Breakfast Club, mais il était dans Saint Elmo's Fire, qui est sorti la même année. Fait que c'était comme toute cette mouvance-là. Là, fait qu'il était comme... une dizaine à peu près de jeunes acteurs qu'on voyait partout, puis souvent qui jouaient dans les mêmes films des uns et des autres.
Okay. Je dois avouer que je ne sais pas c'est quoi Saint Elmo's Fire. Je sais qu'on en parle plutôt.
C'est un gros film. Ouais, c'est un film assez culte.
Plus drame ou un film
d'ado? Ouais, c'est
d'ado,
vraiment
genre?
Drame. Non, c'est des jeunes universitaires. En fait, on suit après la graduation, puis début vingtaine, comment ils essaient de gagner leur vie, puis de justement passer d'étudiant à l'université à jeune adulte et tout ça. On est plus dans le drame mélo.
Mais un peu à la Linklater, ou pas tout à fait.
C'était Joel Schumacher.
Je
pense que c'était son premier film en plus. Mon premier long métrage, si ma mémoire est bonne, ou que sinon deuxième. Fait que. Non, pas Linklater. Okay. On est vraiment dans le mélo, là, un peu.
Okay.
C'était surtout la musique, là, qui avait. Notamment, c'était la période des. Des trames sonores qui se vendaient bien parce qu'on avait des différents hits puis tout ça. Là. Fait que le documentaire Bratz a été fait par Andrew McCarthy, qui est un comédien aussi, qui était dans Saint Elmo's Fire, entre autres, Pretty in Pink et tout ça. Et donc, dans le film, il interview différents personnalités ou vedettes là, qui faisaient partie du Brat Pack. Donc, Fait qu'il y a comme un petit buzz médiatique entourant ça parce qu'il y avait un effet nostalgique assez puissant, mais. Suite à ça, et pendant sa ronde de presse d'Amy Moore, révélé qu'il y avait des discussions pour un Saint Elmo's Fire 2.
Ah ouais, OK.
Fait que ça a peut-être ravivé la
flamme. Ben là, on est vraiment dans cette mode-là, je trouve. Peut-être qu'on l'est tout le temps, mais des avec Betelgeuse, puis toutes les espèces de suites tardives de 40 ans plus tard, en ajoutant des générations, des choses de même. Là.
Fait que... Vraiment, oui. Je pense qu'on est dans ce courant-là. Je pense que Cobra Kai a contribué beaucoup à ça, là.
C'est ça. Est-ce qu'on a une bonne idée ou on a juste... une possibilité, tu sais, c'est ça.
C'est-à-dire que
chaque projet, c'est différent.
Les idées d'histoire se jaseraient.
OK.
Mais on verra bien.
Un peu comme la fameuse série Degrassi, tu sais, qui avait eu la Degrassi Nouvelle Génération, que là, c'était les enfants des autres, puis qui veut bien rejouer dedans.
C'est ici au Québec aussi qu'on a
c'est
eu.
C'est vrai, ouais.
Quand même. Donc, à suivre pour les inconditionnels de Saint Elmo's Fire. Parmi mes amis filles, il y en a que c'est comme leur film... Classique des années 80.
Puis est-ce qu'ils vont suivre Demi Moore jusqu'à The Substance?
Je pense pas. sinon aussi, Mel Gibson va être de retour derrière la caméra.
Ouais, mais dans Flight Risk?
Non.
Ben oui, pour mais faire, il y en a d'autres.
Okay. Non, pour, il y en a d'autres. Un projet annoncé, une okay. suite à un film... qui, ma foi, fait beaucoup
Braveheart
jaser.
2, c'est quoi?
Non, parce qu'il était quand même mort.
Oui, ben, il pourrait suivre il avec pourrait. Quelqu'un. Mais il avait fait un... Tu ris, mais ils ont fait un autre film plus un petit peu B-movie là, qui parlait au cinéma, puis c'était
ouais.
Bruce quelque chose. Puis c'était
Robert
quand même...
de Bruce, oui. Ouais, plus ça, historique, oui. Ouais. Non, écoute, il va ramener Jésus sur, les grands, sur le grand écran.
Ben, il est mort aussi, Jésus.
Oui, mais il est ressuscité.
Ah, OK.
Fait qu'on a une raison de faire...
Ah, ça va être un film de Pâques?
J'imagine, oui. On parle de... Ouais, c'est avril 2025. Fait que
ah, ouais, mais je veux dire, ça va-tu... Ben, je n'ai même pas vu La Passion du Christ.
Ça va être sur les trois jours. Ben, La Passion du Christ, c'était vraiment...
Ça finit avec la crucifixion.
La crucifixion, c'est ça. C'est son, sa longue démarche là, qui l'amène vers le mont Sinaï.
Rushmore?
Non, pas Rushmore.
Ah, OK.
Ça, c'est les présidents.
Là,
donc là, ça serait les trois jours donc entre la crucifixion et c'est avant sa résurrection.
Okay.
Et Cazaviel devrait réincarner Jésus. Alors,
est-ce
on
que
va
ça
rajeunir,
va être
probablement.
Angel Studio qui produit le film?
Non, je pense que c'est lui avec ses propres bidoux qui remet son argent, parce qu'on sait, Dieu sait que son premier, The Passion of the Christ, il l'avait financé lui-même.
Ouais, puis c'était un heureux pari.
Ça avait rapporté 600 millions.
Mais je pense, écoute, les films religieux font de l'argent, mais c'est un peu comme le country, là. C'est quand même à part, là. Ils font pas tout autant d'argent. Il y a certains succès qui sont durs à réimiter maintenant à cause que les gens vont un petit peu moins au cinéma, puis la consommation se fait différemment, les ventes de DVD, toutes ces affaires-là. Mais fait que je pense pas qu'il ferait autant, mais si c'est beaucoup mis de l'avant, là, le fait qu'il arrive, on l'aime ou on l'haït, mais il arrive quand même avec son CV. Fait que je pense que les gens à qui il s'adresse, ils s'en foutent de ce qu'il dit, puis qu'il nie l'Holocauste, puis toutes ces affaires-là.
Tout à fait, tu vas juste voir Jésus.
Ouais, tu sais, avec du gros budget. Alors qu'il y a beaucoup de films biblicaux qui sont un peu budget réduit, mettons. Là,
oui.
C'est ça.
Ouais, oui.
Quand t'en arrives un avec gros budget, ben là, je sais pas, là, ça va être quoi, mais. Ouais. En tout cas,
à suivre. Donc, normalement, sur les écrans, au printemps prochain. Le tournage va se faire cet hiver, là. Fait que ça va être
printemps...
short and sweet.
Printemps 2025?
Ouais. Fait que j'ai l'impression que
ça sera peut-être pas si gros budget que ça, là.
Ben, on s'entend qu'il ne mettra pas 100 millions sur un film.
Ouais, c'est ça. C'est
rendu mais tu sais, peut-être un 30-40 millions, quelque chose comme ça. Puis je pense que ça va être tourné en trois semaines. Puis cet hiver, puis bing bang, on monte ça.
OK.
Fait qu'à suivre. Okay. Sinon... je sais que tu es un grand fan des biopics.
Ça
dépend pour qui.
Je peux pas m'en embrêter. Il en faut plus.
Et voilà. Fait que le Kiss, évidemment, va avoir droit à leur biographie.
Ah, puis là, c'est le même problème. Ils sont tous vivants ou presque là, là-dedans. Je sais pas.
Je pense que les quatre d'origine.
Fait que là, ils vont tous avoir un droit de regard. Puis ça va être super à l'eau de rose. Puis tout est beau.
On a fait un peu de drogue à m'amener.
Ce qui me fait un peu plus peur, c'est le réalisateur qui semble avoir été choisi. C'est McGee.
Qui
avait fait les Charlie's Angels, les...
je ne replace même pas. Ben, je sais
McGee,
pas
Charlie. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait The Terminator...
Genesis, genre?
C'était celui qui se passe dans... Non, moi, qui se passe dans le futur, là. C'était-tu Genesis? J'en
ou Dark
debout.
Fate?
Non, Dark Fate.
Non, dans le futur avec Christian Bale.
Ouais.
OK. Resurrection?
En tout cas, bref, ça, celui-là. Okay. Puis, McGee est comme un peu, considéré un peu comme une risée. Un peu
mais c'est juste McGee, il n'y a pas de prénom, c'est juste comme McLovin dans
Ça. OK. Fait que voilà. Mais on l'a choisi parce qu'il fait ses débuts dans le monde du clip musical dans les années 90.
Okay.
Fait que bref, à suivre. Et dernière petite nouvelle, Clint Eastwood, son dernier film, Juror No. 2, devrait prendre l'affiche le 1er novembre, mais on parle vraiment d'une sortie très limitée de la part de Warner. Le temps approche, puis
dans
rien
6
vu
semaines,
encore.
Puis personne ne sait que ça existe. Là,
fait que, quand même un peu décevant. Là. Ça risque d'être fort probablement son dernier film, vu son âge, quand même 93-14.
Ouais.
Je viens d'avoir 94 ans il y a quelques jours.
Crime.
Fait que, mais ça demeure quand même Clint Eastwood, c'est toujours un peu intéressant. Même si ça n'a pas toujours la même constance d'intérêt. Là. Des fois, c'est ces sujets qui détonnent un peu, mais là, cette fois-ci, c'est Nicholas Hoult qui tient l'affiche, puis il joue un jury, là, dans une cause qui peut avoir de beaucoup de ramifications.
Okay, un peu
dans
plus
la communauté,
thriller,
là.
Peut-être.
Ouais, c'est ça, là. En tout cas, un drame moral.
Judiciaire.
Bref, pas à suivre pour les fans de Clint Eastwood, en espérant qu'on l'ait au moins au Canada, sinon au Québec aussi, puis peut-être même dans
ouais, mais là, limité comme ça, peut-être fait au Québec, je serais surpris qu'il y ait une version française. Là,
ouais, ça risque pas.
Ouais, surtout, je sais plus par cœur, mais effectivement, il y a eu dans les années 2000 des très gros films, là, quand même. Oui. Million Dollar Baby, puis Gran Torino, puis une autre coupe d'autres, quand même. The Mule, ça avait
Je pense que c'est son dernier gros,
ouais,
me semble.
C'était quoi,
là,
2018, puis... 19 à peu près là.
Peut-être un petit peu moins. Ou... Peut-être un petit peu avant, je sais pas.
Puis, mais là, ouais, les derniers, c'est plus timide. C'est pas nécessairement des mauvais films, c'est juste. Bref.
Plus film d'auteur peut-être un peu moins grand public. Là. Mm-hmm. Fait que voilà le tour pour les actus. Sinon, bande annonce,
quand même. Mickey 17, Mickey 17 de Bong Joon-ho, donc qui retourne faire un film aux États-Unis depuis peut-être le... Okja sur Netflix avait été aux États-Unis, sinon le Snowpiercer, un de ses premiers. Puis avec Robert Pattinson, entre autres, dans plusieurs rôles, puisqu'il joue quelqu'un, on est dans le futur, on n'est pas trop clair si on est sur la Terre ou ailleurs dans l'espace. Il s'est soumis volontaire à être comme un genre de cobaye, puis à chaque fois qu'il meurt, ben on l'a cloné, fait qu'on peut le recréer, dans le fond. Mm-hmm. Fait qu'il se retrouve un peu dans cette folie-là. Il y a qui? Mark Ruffalo, Naomi Aki, Steven Young, Tony Collette. Mais je pensais que ça serait un ton comme un peu dramatique quand je lisais ça sur papier. Puis une fois la bande-annonce sortie, non, ça a l'air un petit peu...
comédie noire.
Ouais, Coco Banane, comédie noire, que là, il se retrouve, il y a deux clones en même temps parce qu'il y en a un qui n'est pas mort finalement, etc. Fait que, cette espèce de folie qu'il y a dans plusieurs des Bong Joon-ho, qui était un peu moins dans Parasite, qui était un petit peu plus au sérieux, ou d'autres films peut-être, Memoirs of a Murderer, des affaires de même, mais dans certains de ces films... il y a cette inventivité-là, mettons. Fait que, hâte de voir ça. Robert Pattinson, qui fait quand même plusieurs films de sci-fi, était dans un film de Claire Denis aussi, dans l'espace, que j'ai oublié comment ça s'appelait, où tout virait mal, là, très sexuel. Fait que, mais... 31 janvier, déjà, pour ça. Et...
Non, ça a l'air très, très prometteur, honnêtement. On est vraiment original comme histoire, puis j'aime bien le ton, humour décalé un peu et tout ça. Là. Fait que,
ouais, hâte c'est de ça. Voir. Puis l'argent a l'air d'être à l'écran, pas mal d'effets et tout. Moi qui
est... Sinon, oui, toi!
Film d'action, film de papa, suite qui avait été annoncée, qu'on pensait plus que ça arriverait, Den of Thieves 2, 2 points, Pantera. Je me souviens plus comment ils appelaient en français, Den of Thieves, paquet de voleurs, je sais pas. Mais avec Gerard Butler puis O'Shea Jackson Jr. Fait que dans le premier... c'était comme Butler était un agent qui essayait de trouver du monde qui font des complots criminels, genre là, pas juste un policier de service, mais que sa vie était ben tout croche, puis il est limite très problématique.
Okay.
Puis finalement, spoiler, ça finissait que c'est O'Shea Jackson qui avait l'air du nigo de service qui était derrière toutes ces opérations-là, puis qui s'est sauvé avec tout le magot. Puis là, on se retrouve dans le deuxième où Butler, vu qu'il était un peu problématique en divorce, alcoolique, puis tout, il s'est fait mettre dehors de la police, je pense que c'était Los Angeles. Puis il a retrouvé Jackson qui est rendu ailleurs dans le monde. Fait qu'il va le rejoindre, puis il dit « Bon, là, j'ai besoin de cash. » Fait que je suis encore aussi weird qu'avant, mais je travaille plus pour la police. Fait que là, mets-moi dans ton braquage. Fait que c'est des films de braquage que je dirais un petit peu élevés quand même. Là. Le premier avait l'audace de faire genre 2h20. Là. Fait qu'il y avait beaucoup de développement de personnages, puis on prenait son temps. Il y avait quand même une scène vraiment cool à la fin, là, une scène d'action, de fusillade, mais dans le trafic, genre. Fait que tout le monde sortait de leur char, puis ils se couraient après. C'est quand même cool. Fait que c'est un film plus, quand même, je trouve.
C'est pas White House Falling, ou que je sais pas trop.
White House Down, ces affaires-là. Non, je le trouve un petit peu plus cool que ça. Mais là, est-ce que la suite a le moyen de ses ambitions et tout? On verra bien. Je pense que c'est Lionsgate qui produit ça. Fait que...
Ça sent Lionsgate un peu.
Ah, puis écoute, c'est Lionsgate, mais distribué par VVS. Là, fait que là, t'es le premier aussi. Fait que tu sais, c'est comme un, en tout respect, là, un cool VVS d'action, en mon sens. Mais écoute, ça fera pas 250 millions, là, on verra bien. Le 10 janvier, fait que gros début d'année.
Ça me laisse le temps de l'aller écouter le premier.
Dans le genre, je trouve que c'est des bons films, mais c'est pas des films iconiques et tout. C'est comme Liam Neeson, mettons Taken, le premier, c'est bon dans son genre. Après, il y en a eu trop, peut-être. Là.
Surtout, il a toujours trop fait le même film, par exemple.
Ouais, ben là, en plus, il y a une autre bande-annonce d'un autre qui vient de sortir. C'est comme, à chaque fois que tu vois la bande-annonce, il y a des bonnes chances que ça soit direct tout DVD, cette affaire-là. Mais ouais, puis je parle de Den of Thieves, il est quand même annoncé pour le cinéma aussi du côté de VBS. Bon, ça t'actu aux nouveautés de la semaine?
Ouais, moi, je vais avec le plat principal.
D'accord.
The Substance de Coralie Farge.
Ouais, la substance disponible dans plein de langues, en français, en sous-titré français ou en version originale anglaise. Fait comme on disait d'entrée de jeu, c'est des Français qui font des films aux États-Unis. On a un peu... ben, spoilé. Ça met en vedette Demi Moore, Margaret Qualley, qu'on voit dans tous les films maintenant, et Dennis Quaid, Qualley, qui est la fille de Andy McDowell, et je ne sais plus c'est qui son père, quelqu'un Qualley, j'imagine.
Je pense que c'est un ancien modèle que j'avais vu, un ancien mannequin.
Tu peux expliquer des choses?
Ben voilà.
On va suivre ici une actrice hollywoodienne qui était anciennement oscarisée, qui était la coqueluche, donc jouée par Demi Moore. Puis là, elle est rendue en cinquantaine avancée. Elle s'appelle Elizabeth Sparkle, qui doit être un nom d'actrice, si on veut, un peu là-dedans. Ça me fait juste penser à Robin Sparkle dans I Met Your Mother. Mais là, elle anime une émission d'aérobie pour, disons, femmes d'âge mûr. Fait qu'elle est en train de perdre un peu son temps d'antenne et tout parce que les grands producteurs blancs et à l'argent et aux jolies minettes disent « Bon, là, ça n'a plus de bon sens, cette vieille madame-là. » Fait qu'elle se fait un petit peu tasser. Puis elle accepte très mal ça. Puis je peux comprendre que c'est quand même insultant. Fait qu'elle se fait offrir une espèce de procédé biochimique très secret qui s'appelle The Substance, donc la substance, qui créerait un double d'elle plus jeune. Donc, il la ramènerait dans sa version jeune. Mais c'est pas clair si c'est elle-même ou une autre version différente. Sauf que les deux peuvent pas exister en même temps. C'est pas un sérum qui la rajeunit, c'est un sérum qui lui crée un double plus jeune. Mais il faut qu'elle suive les instructions à la lettre et qu'elle alterne d'une semaine à l'autre pour que les corps se régénèrent puis puissent fonctionner correctement. Mm-hmm. Sauf qu'il mentionne bien que tu es la même personne, c'est pas deux entités différentes, mais rapidement, ben peut-être que ça va créer une dichotomie puis être un peu mélangeant pour elle et peut-être qu'ils vont un peu tricher ces règlements qu'elles doivent suivre à la lettre.
Très bien dit.
Ben c'est ça. Fait que c'est une espèce de quête de l'éternelle jeunesse qui... c'est une proposition qui va 100% à broil dans panne. Là. La panne à... le poilon à 10. Là.
Moi, oui, oui. Mais avais-tu finalement le temps d'écouter le premier film de...
Oui, Revenge, qui était aussi un film tourné en anglais qu'elle avait fait, qui était... aussi très sexy, là.
Oui.
Quand même, c'était, c'est son premier film, 2018, à peu près 17, je pense.
Oui.
C'était comme une espèce de playboy, là, très riche et tout, qui invite sa maîtresse dans un petit cottage, genre au milieu du désert, maison de luxe, comme « bon, on va avoir du sexe pendant 24 heures, 48 heures, après je te retourne, puis mes chums de chasse s'en viennent ». Sauf que les chums de chasse arrivent un peu plus tôt. Il se passe des affaires sans consentement, fait que là, il la laisse un peu pour morte, là, mais ils l'ont laissé pour morte, puis par une espèce de force du désert à la Catwoman, mais ici, plus par l'énergie des fourmis, ben, elle va prendre vengeance, prendre revanche sur eux. Fait que il y avait déjà des petits éléments de gros plans, de body horror tranquillement, de...
L'immobilier.
La domination des... Ouais, mais la domination des hommes sur les femmes objets... mais elle filme quand même ces femmes de manière très sexy qui mettent ça. Fait que cette espèce de dichotomie qui challenge. Là, au lieu de juste accuser en ne le montrant pas, ben elle montre, mais qu'il y a comme une liberté là-dedans. Fait qu'on n'est pas si loin. On a juste plus le budget de nos... Ben, en fait, le premier était super cool, mais je veux dire, c'est un film qui a plus de budget, puis probablement qu'on n'a pas hésité à lui donner, finalement.
Si le premier avait peut-être une vibe... Mais je dis ça grossièrement comme ça, un peu à la Tarantino.
Oui, quand même.
Là, on est dans une vibe Cronenberg.
Oui, 100%, ça serait la
dans le bizarre, dans l'étrange.
La fille, comment on dit ça, là? Non, pas adoptive, mais quand t'as un enfant, mais illégitime.
Oui,
la fille illégitime de Cronenberg, je pense, serait ça. Après l'année où on a eu son fils et sa fille qui a fait un autre film, puis tout, c'est la suite logique. Quelque part aussi, moi, je trouve qu'il y a un petit côté, ce qu'on a vu récemment d'un Yorgos Lanthimos, là, d'aller un peu humour noir, d'aller au fond de ta proposition, que ce soit Partings ou The Lobster ou des choses comme ça, de comme je dis, on va y aller intense dans cette espèce de...
Même Kinds of Kindness aussi.
Oui, c'est vrai, effectivement.
C'est une proposition très audacieuse, intense, déroutante.
Oui. Il y a puis le... Ce qu'on appelle le body horror, c'est donc des éléments filmés très proches, des aiguilles, des petits membres qui vont pas bien, du pus, des liquides, des fluides.
Du son étrange.
C'est ça. Fait que c'est pas un... c'est pas un film d'horreur, mais c'est un film qui a du body horror. Fait que vous voyez pas quelqu'un se faire scier la tête puis ouvrir le couteau là, comme le Terrifier qui s'en vient puis des choses comme ça, tu sais. Mais c'est quand même...
Inconfortable.
Ouais, c'est comme le classique du jumpscare, tu sais, quand on parlait avec X-Men de Long Legs, qu'il filme super bien les fenêtres, puis t'es comme, il y a quelqu'un, quelque chose qui va popper. Ben là, il est souvent en train de filmer un gros plan sur un œil, sur une pupille, sur une dent, sur une bouche, sur Dennis Quaid qui mange des grosses langoustines de façon dégueulasse. Puis le traitement sonore avec ça, t'es toujours, ah, c'est comme, c'est quelque chose de normal, mais ça devient écœurant parce que le focus est vraiment mis là-dessus. C'est un style, c'est ça, visuel quand même, très coloré, même s'il y a beaucoup de blanc, mais c'est un blanc pur, une salle de bain en carrelage blanc avec le contour noir, très épuré, beaucoup d'affaires de miroirs, de réflexions, tu sais, des manteaux jaunes et des corridors de tapis carottés, c'est très flashy, c'est pour ça que c'est un film qui est très excité, qui dure quand même 2h20. J'ai eu un petit feeling de longueur à un certain moment, mais la fin vient nous pogné par la nuque, puis disait « Non, non, on regarde ça comme dans le fameux Clockwork Orange, là. Les pupilles ouvertes, là, on dirait que ça te met de même de check. Là, j'ai... Tu pensais que j'étais à 10, là, mais à 12 sur mon échelle de volume, là, puis jusqu'à la fin. T'sais.
Écoute, oui, c'est d'ailleurs drôle que tu mentionnes Clockwork Orange, parce qu'on sent l'hommage, je trouve, à Stanley Kubrick aussi dans son film par son esthétisme.
C'est beaucoup de jeux de corridors, de
corridors,
de tubes très
le
longs.
Corridor orangé avec les carreaux, c'est très de Shining.
Ouais, c'est
ce genre
vrai,
de pattern-là. D'ailleurs, le sang qui gicle qu'on voit dans ce corridor-là.
Une bonne
aussi, fait que... Écoute, c'est un film que j'avais très hâte de voir, d'autant plus que, justement, depuis son passage à Cannes, où elle avait remporté le prix du meilleur scénario.
Oui, c'est vrai, on l'a pas mentionné.
Ouais. On voyait surtout sur les réseaux sociaux que je suis un peu, puis tout ça, que les gens l'attendaient, il y avait un gros buzz. Fait que moi, j'ai pas été déçu, déstabilisé, certes. En même temps que tu l'as dit, je pense que c'est une belle continuation de son premier film, Revenge. En fait, c'est son deuxième film, donc ça, comme 7 ans plus tard, elle nous revient avec celui-là. Fait que c'est vraiment une cinéaste très talentueuse. Mm-hmm. Sa réalisation est vraiment époustouflante dans les plans, dans le son, dans le montage. C'est super intéressant. Je pense qu'il faut dire la vedette, c'est Demi Moore qui est vraiment surprenante. Là, on sait quand même Demi, à une certaine époque, était la reine d'Hollywood dans les années 90. Ça a été plus tranquille par la suite. Elle a fait un mini comeback dans le deuxième Charlie's Angels.
Ouais, début
là,
2000.
Une dizaine
d'années.
Ouais, c'est ça, peut-être 15.
Avec McG, justement.
Ouais, avec McG, justement. Où elle avait osé montrer dans sa quarantaine son bikini bod.
Ouais, ben, moi je trouve qu'il n'y avait rien de gênant là-dedans. Mais là, elle y va encore plus.
Ben là, oui, là, quand
les
même.
Les comédiennes, en fait, Qualley aussi, c'est.
Oui, oui, se mettre à nu, tout à fait.
C'est pas vraiment de la sexualité, c'est de la
nudité. Puis il faut le souligner
quand
même.
Parce que c'est un regard sur le corps.
Oui,
c'est
oui,
c'est elle-même, c'est ça qui
l'enfant. Et les standards de beauté et tout ça. Puis écoute, Demi Moore qui a 60 ans. Faut le faire, là. Faut que tu sois courageux. Fait que ça, je lui lève mon chapeau.
Mais je pense que c'est un film que tu peux pas faire autrement que comme ça.
Ah, faut que tu sois en ligne, c'est sûr, c'est certain. D'ailleurs, elle a dit que c'est quelque chose qu'elle appréhendait au moment du tournage, mais elle a développé vraiment une bonne relation avec sa co-vedette Margaret Qualley, justement. Fait que ça l'a mis bien à l'aise, parce que quand même, Qualley, elle a pas ce complexe-là. Elle est pas mal nue dans ses films. Fait que je pense qu'elle est très à l'aise avec son corps.
C'est comme une nouvelle génération, peut-être, qui est beaucoup comme ça sur certaines comédiennes. Emma Stone, par exemple.
Oui, tout à fait.
Mais oui, ça fait partie de la proposition. Tu es en adéquation avec ça, mais... Tu sais qu'à partir de ce moment-là, ben les images nues de toi existent là, en tant qu'humain là, et tout. Fait que c'est d'être... Mais non, moi, j'assume la proposition artistique. C'est une histoire intéressante. Il y a quelque chose à raconter.
Ben,
j'accepte d'être le véhicule de cette idée-là.
Puis c'est un très beau rôle, honnêtement, pour une comédienne. Fait que c'est sûr que ça, c'est valorisant. Puis ce qui est intéressant, c'est le miroir aussi de son personnage qui évoque, on peut dire, Demi Moore quand même, parce qu'elle avait atteint ce statut-là. Mm-hmm. A été un peu rejeté par l'âgiste. On peut faire des liens avec Jane Fonda aussi.
Oui, ben surtout les émissions d'entraînement
c'est
et
c'est ça,
tout,
mais
là,
c'est une actrice qui était très sérieuse, qui avait même gagné un Oscar aussi dans les années 70, ou en tout cas en nomination, était vraiment
dans
des très gros films. Non, pas pour Barbarella. Dans des films un peu plus sérieux. Fait que dans les années 70, c'était quand même une des top actrices. Puis justement, un peu par ragisme, un peu par quêtennerie, bifurquer vers l'aérobie et tout ça. Puis effectivement, il y a tout ce contexte-là, un peu cette critique, ce regard-là d'Hollywood qui est super intéressant. D'ailleurs, c'est un film qui est une satire de ce milieu-là.
Oui, oui, oui. Ben, le Dennis Quaid aussi, lui, il a l'air... on le voit juste pas faire des lignes de coke, là, mais clairement, il est avec des petites filles, puis il est... Oh, ouais, il est bien dégueulasse, là. La musique aussi, là, c'est pour donner une idée de ça ressemble. Tu sais, c'est très rock électronique. C'est Rafferty, l'artiste qui fait ça. Très agressif. Il y a une petite vibe aussi, justement, Trent Reznor, Atticus Ross, mais du Reznor de Nine Inch Nails, pratiquement. Ou en parlant de clips et d'affaires weird, du Aphex Twin là, des années 90. Là, très... ouais, agressif. Là, c'est pas mal. Pas agressif comme de la violence, mais agressif comme agressant. Là, ça vient... Tu peux pas jouer ça doucement, c'est juste fort, tu sais. Fait que c'est définitivement pas pour tout le monde. Ça peut rappeler un peu aussi Titan, mais moins énigmatique que Titan, qui était aussi, j'ai oublié le nom, mais par une Française aussi, qui était un film français, en fait. Et d'ailleurs, justement, on a parlé d'entrée de jeu, le fameux People's Choice Award du Midnight Madness du TIFF. C'est comme un prix que je connaissais pas vraiment, puis je me suis mis à regarder les récents gagnants, puis je fais « OK, finalement, ça, c'est quand même mon genre de bague, tu sais. »
Oui.
Il y avait, entre autres, on a eu en 2014 « What We Do in the Shadows », en 2011 « The Raid ». 2022, c'était « Weird Al Yankovic Story » qui a remporté, mais il y avait « Pearl » qui était en compétition. De plateforme Titan en 2019 l'avait gagné. Fait que, ce genre de cinéma que si tous les films étaient comme The Substance, ça serait épuisant.
Oui.
Mais une fois par année, un film assumé puis vivant comme ça là, et qui n'est pas juste une coquille vide aussi.
Oui,
là,
oui, non, c'est ça.
Fait que moi, j'embarque là-dedans. J'ai adoré ce film-là. Assurément, il va se retrouver dans mes tops de l'année parce qu'il est fait avec qualité. J'ai pas remarqué, si c'était Adrien Moreau qui était sur les prosthétiques.
Non, j'ai regardé. C'est un Français, j'imagine. Non, mais j'ai oublié,
Fait que moi, mon seul petit... On donne pas la note, mais ma seule petite retenue, c'est à 2h20, moi, j'aurais aimé ça qui dure 2h, 2h02 ou quelque chose comme ça. Mais comme d'habitude, c'est facile à dire. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais enlevé dans le film. Mais il vient bien nous rechercher à la fin. Il finit pas poète-poète. Il finit très fort.
Tout à fait.
Puis, fait à noter, c'est une distribution de la plateforme Mubi. Puis Mubi avait eu certains films qui ont sorti au cinéma qui sous-distribuaient. Puis là, ils font une vraie fenêtre cinéma pour le film. Je sais pas quand est-ce qu'il va être sur la plateforme, là, dans plusieurs dizaines de jours, 60, 90 jours, je sais pas. Fait que c'est super cool. Fait qu'avec ça, on revient toujours un peu chicaner Netflix ou Apple qui ont retiré Wolf puis des affaires comme ça. Puis dire, il y en a d'autres là, qui comprennent que ça donne. Moi, je trouve que ça donne du panache à ton film. Puis ultimement, tu le rentabilises plus. Après, tu as l'exclusivité sur ta plateforme. C'est quoi le rush d'aller mettre ça tout de suite? Donne-toi une fenêtre de cinéma. Puis le monde va enjoyer. Là.
Ouais, faut quand même dire que c'est une production working title.
Donc, ça a été racheté par Mubi, dans le fond. C'est pas eux qui ont produit. C'est qui dans working title?
Working title, c'est gros, beaucoup les films de. Comment tu les appelles? Les Anglais qui ont fait Notting Hill, Four Weddings and a Funeral.
Hugh Grant, là, mais je sais pas.
Non, mais les producteurs, c'est Tim Bevan puis Bruce.
J'aurais pas su leur nom.
Fait que, fait qu'ils ont travaillé moins ce genre-là. Bien qu'ils ont quand même, je pense, peut-être. Je pense pas qu'ils ont travaillé avec les Coen, mais en tout cas, quand même des films plus grand public que ça d'habitude. D'ailleurs, c'était Universal. Je pense qu'ils distribuaient beaucoup des films de Working Title qui devaient sortir le film, mais ils ont eu trop peur quand ils ont vu ça. Fait qu'ils ont dit, finalement, on va passer à des amis.
C'est-tu quoi? C'est bien correct. Puis, parce que...
Je pense qu'il n'aurait peut-être pas su.
Ouais, même si le film buzz puis il fait 40 millions, là, mettons, sur sa run, là, pas en fin de semaine, une autre compagnie n'aurait peut-être pas réussi à... Ça, ça prend quelqu'un qui est all-in avec ce film-là, qui a le bon réseau de contact, qui a la bonne signature. Tu peux pas. C'est pas n'importe quel film qui peut être distribué par n'importe qui. Le film vit pas en lui-même. La promotion, puis l'effort, puis l'énergie qu'on met dedans est en lien là-dedans. Puis des trucs comme Universal, c'est rien contre eux, mais des fois, ils ont aussi beaucoup de films. Fait que si tu le traites juste de même, puis que la semaine prochaine, t'as Robot Sauvage, puis que t'as là, il aurait peut-être pas sorti le 20 septembre, là, mais tu sais, t'as plein de films, c'est comme on passe tout de suite au suivant, tandis que là, pour l'an que Mubi puis leur équipe, c'est comme on se concentre là-dessus.
C'est ça.
On fait des festivals, on fait notre sortie, c'est juste ça qu'il y a dans notre assiette en ce moment.
Fait que moi, j'ai quelques petits fun facts rapidement sur le film. Donc, Farja a établi, ou en tout cas trouvé cette histoire-là alors qu'elle avait eu 40 ans.
Ah,
quelques années, ça a été sa crise de la quarantaine. Elle se sentait justement tout ce questionnement que beaucoup de femmes...
Ouais, je ne sais pas aussi si elle a eu des enfants. Là, c'est quelque chose qui vient quand même jouer beaucoup. Hein,
donc, elle a décidé de mettre ça sur papier, ce qui est quand même intéressant. Ray Liotta avait été choisi pour jouer le rôle.
Il aurait été bon aussi.
Je pense qu'il a été très bon. Ouais. Finalement, remplacé par Dennis Quaid. Et je pense que Liotta, parce que dans le film, je pense qu'un petit clin d'œil évident à ce personnage-là, à Harvey Weinstein, évidemment le grand dirigeant de Miramax déchu pour tous ses frasques sexuelles. Puis je pense que Liotta, physiquement, il aurait peut-être ressemblé un petit peu plus à Liotta.
Puis il y avait-tu... Dennis Quaid, je le sais pas, mais est-ce que Liotta avait eu aussi une couple de chirurgie, là, un petit peu de botox?
Je pense que oui.
Mais Weinstein, non, mais ça ajoute à ce personnage-là parce que le Harvey du film aussi dit, à un moment donné, très ouvertement, c'est comme, ouais, 50 plus, là, c'est fini. Là, c'est pour ça, t'sais, dans le fond, les codes d'écoute baissent parce qu'elle est trop vieille, c'est ça dans sa tête. Fait qu'on criffe ça au vidange, on rajeunit. Je veux plus jeune, plus sexy, plus frais. Audition, 18 à 30 ans, gros max, blablabla. Hey, mais juste pour le film, ça n'a pas de bon sens. Ce qu'il présente dans le film au début, son émission d'entraînement, quand c'est Demi Moore, quand c'est Elizabeth, c'est bien correct. Mais quand c'est la plus jeune, Sue, qui arrive, c'est de la porn habillée. Là, je veux dire, c'est de la porn habillée, puis en vêtements serrés, puis qui cache juste les genitals, comme on dit, puis tout. Fait que c'est comme... Oh, et puis ils sont comme, les côtes d'écoute sont folles, on continue, les gens t'aiment. Les gens t'aiment, les gens veulent te baiser.
Tout à fait. Et dernier petit fun fact, donc Margaret Qualley, qui est la fille d'Andy McDowell, comme tu le disais, ça a été quand même intéressant d'avoir Andy McDowell dans le rôle. Ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant.
Mais oui, parce qu'il y aurait eu une ressemblance encore plus forte, peut-être, mais elle assume vraiment, à m'amener du jour au lendemain, elle est arrivée, elle a les cheveux gris, sa grande tignasse, puis tout. Je me demande si elle n'est même pas retraitée. Elle joue-tu encore dans des films? Un peu.
Mais oui, beaucoup moins.
C'est ça, fait que je ne suis pas sûr qu'elle-même, peut-être qu'ils l'ont même considérée, mais qu'elle ne serait pas allée all-in, puis elle n'a pas été justement dans cette chirurgie plastique, puis ces affaires-là que Demi Moore a fait. On les voit, ces faux seins, puis ces affaires-là.
Ils tiennent encore très bien à 60 ans, quand même.
Oui, ben en plus, c'est ça qui est dommage, mais je comprends. Puis ça, c'est pas juste pour les femmes, c'est juste que les femmes, je pense que c'est encore plus sévère dans l'industrie. De l'animation, de la télé, du cinéma, de genre, t'as l'air trop vieille, ça prend des plus jeunes.
Les titres d'arrivent.
C'est ça, tandis qu'on dit souvent que les hommes vieillissent, ça prend plus vieux avant que t'aies ce clash-là. Fait qu'un homme de 50 ans qui sort qu'une fille de 31, c'est classique. Ou qui, dans le film, là, sont comme un couple, mais c'est comme, dans la vraie vie, ils ont genre 23 ans de différence. Là. Fait que ça ajoute à ça, mais tu sais, superbe, là, tu sais, toujours été... Très belle femme, et etc. Là, fait que c'est ça, ça ajoute à tout ça au film. Là,
donc, Andy McDowell avait joué dans Saint Elmo's Fire avec Demi Moore.
Ah, OK.
La boucle avait vraiment un tout petit rôle, puis je pense que c'était son premier à l'écran, parce qu'elle était mannequin aussi, Andy McDowell. Okay. Elle a débuté comme mannequin. Et je termine avec une prédiction. Demi Moore sera en nomination aux Oscars.
Ah oui.
Sûrement.
Penses-tu quoi aller aussi?
Je sais pas. Elle est très, très bonne. Est-ce que c'est un rôle assez puissant pour qu'elle soit nommée?
Puis c'est le genre de cas que, aussi, ça dépend qu'est-ce que le distributeur va faire. C'est à leur discrétion, mais tu sais...
Ils pourraient pousser les deux comme...
Ouais, c'est ça. Les deux sont un petit peu lead dans ce film-là, parce qu'en plus, on les voit en alternance. Fait qu'au début, on voit plus Moore, amener on voit plus Qualley, amener ça revient, ça balance. Fait que ça dépend des... Souvent, ils poussent ça comme des odds. C'est sûr que tu peux pas mettre Demi Moore en secondaire, mais à la limite, tu pourrais mettre Qualley en second rôle.
Ouais.
Ça serait peut-être mieux que mettre tous les deux dans le même panier puis soumettre les deux à la même place, là, mais ça va être un rôle très fort. Là.
Et parlant d'une actrice qui a remporté un Oscar, qu'on voit dans ce film qui prend l'affiche également en fin de semaine, Never Let Go d'Alexandre Aja.
Oui, puis j'allais dire, je veux pas jouer les petits vicieux, mais qui s'est déjà aussi montré nu à l'écran. Voilà. Mais pas cette fois, pas du tout. Dans Never Let Go, comme tu as dit, Ne jamais lâcher au Québec, de Alexandre Aja, qui est aussi notre autre camarade, notre autre cousin français, que je pensais qu'il était comme français d'origine hispanophone à cause de Aja, Aja et tout, mais c'est juste son surnom parce que c'est Alexandre Jouan Arcadie, donc Aja, fait qu'Alexandre Aja, nom d'artiste, avec Halle Berry, qui est la vedette du film, mais aussi Percy Daggs Cat et Anthony B. Jenkins, deux jeunes afro-américains pas connus, mais qui jouent ses deux fils jumeaux dans l'histoire. C'est un film d'horreur ici, plus clairement de l'horreur que dans le code de Substance. On est dans une maison qui commence à être très vieillissante, embusquée au milieu du bois, une mère de famille monoparentale avec ses jumeaux. Puis chaque fois qu'ils sortent pour aller chercher des vivres ou quoi que ce soit, ils doivent s'attacher avec une corde, une grosse corde tissée de bateau, ouais. Exact, qui est attachée comme à l'ancrage à l'intérieur de la maison. Dans la maison, il y a plein d'écriteaux qui semblent vraiment les protéger de ce qu'elle a dit être les esprits, le mal qui rôde et qui se déguise pour les attirer. Puis il faut qu'ils never let go, donc ils ne lâchent jamais leur corde, qui est un peu la corde de vie finalement, qui rappelle aussi l'escalade, là. On appelle ça quoi, le brin de vie aussi, mm-hmm. quand c'est pour pas que t'échappes et que les autres meurent. Fait que on travaille là-dessus, mais là, plus les garçons grandissent, ben même entre eux, il y en a un qui va commencer à challenger sa mère en disant « Mais là, c'est-tu vrai cette affaire-là ou c'est pas vrai? » Et c'est aussi un peu ce que le film veut nous mettre en tête, c'est « As-tu raison? As-tu pas raison? C'est-tu vrai? Sont-tu isolés? »
Parce qu'elle voit ces manifestations-là, mais pas les garçons.
Exactement. Fait que là, puis ça commence à être de plus en plus difficile parce qu'on sent que la nourriture autour se fait de plus en plus rare, leurs récoltes sont difficiles, probablement qu'à force de manger les petits animaux du coin, ben il y en a moins, puis ils viennent moins proches, puis etc. Fait que là, la limite de leur corde, littéralement, se fait sentir. Fait que dans cette espèce de moment charnière avec ses enfants qui ont genre 9-10 ans, qui la challenge, etc., ben il va arriver des choses difficiles et on saura ultimement si c'est vrai ou si c'est faux et s'il y a une twist. Mm-hmm. C'est un peu le genre de film que Shyamalan, oui. Je pense, aurait voulu faire ou produire ces dernières années, cette année.
C'est dans ses cordes, effectivement.
C'est ça. C'est comme du bon Shyamalan des meilleurs jours, mais que c'est pas du tout associé à lui. On est justement quelque part un petit peu entre peut-être, je lisais ça, Bird Box, qui était un peu sur cette espèce d'esprit, puis que, ben, d'esprit de créature extraterrestre, puis il fallait avoir les yeux bandés ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a une idée de foi aussi.
Ouais, puis on est dans un monde, on n'est pas certain post-apocalyptique ou pas, où eux sont comme les derniers. Elle se dit qu'ils sont les derniers survivants.
Uh-huh.
Fait que, ouais, il y a un peu ce côté-là, Bird Box.
Fait que, ouais, c'est ça. Moi, je trouve que le film se place bien entre. Surtout qu'on a eu récemment au courant de l'été, t'es pas dans le horror flick qu'on appelle, donc la sortie d'horreur de la semaine avec des jumpscares puis des chats qui passent devant l'écran avec un gros son de violon. Mais on n'est pas non plus au fond de l'elevated horror puis du Ari Aster puis ces affaires-là que ça peut agacer certaines personnes, justement. Je trouve qu'on est entre les deux. C'est-à-dire qu'on est plus dans un film d'horreur, mais pas un slasher, mais un film d'horreur assez traditionnel dans sa forme, mais qui a une certaine prise de risque dans certains moments d'action et tout. Et on assume aussi qu'il y a un rythme un peu plus lent, parce que ça arrive souvent dans les films, c'est un genre de huis clos, il n'y a que trois personnages, ou du moins pour une bonne partie du film. Fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui meurt à toutes les secondes, là. Fait qu'on est comme, ben, on apprend à connaître qu'est-ce qu'ils font, il fait très noir dans le film, c'est tourné très sombre quand c'est la maison. Fait que tranquillement, on un peu comme The Witch, qu'il y avait, qui était dans les débuts de ce qu'on a appelé le Elevated Horror des années 2010 en montant. Fait que ce côté de genre, ben, je vis avec eux dans leur façon de faire, puis c'est bizarre, c'est juste que l'autre, c'était plus des pèlerins jusqu'à temps qu'il y ait de la sorcellerie. Là, on est déjà dans un univers où il y a du fantastique, mettons, là. Mais ouais, c'est ça. Je trouve qu'on est à mi-chemin entre les deux, puis ce qui est bien, le film a une propre proposition. Il doit avoir des trucs là très, on parlait de Mel Gibson, très religieux, très biblique, le fait d'avoir les deux fils, il y a le côté serpent de la créature, c'est sûr qu'il y a des relations à tout ça, là, pas Adam et Ève puis la pomme, mais Abel et Caïn.
Le serpent, c'est le savoir, le gardien du savoir, donc
okay.
Bon. Je pense qu'il est peut-être lié avec la mère, puis... Caïn et Abel, les deux garçons.
Ouais.
Fait que oui, je pense que oui. Parce que la religion, elle semble très fanatique.
Ben, on n'est pas dans la religion, mais on est dans la foi.
Dans la foi, c'est ça, oui.
On parle pas de Dieu ou d'un Dieu en particulier, mais tu sais, ils font un genre de prière qui est comme aux maisons, protège-nous. Il y a des écritures partout. La mère a plusieurs tatous, des choses comme ça. Là.
Fait qu'un film, non, quand même très bien réalisé, honnêtement. C'est vraiment intéressant. Puis, j'étais allé voir un peu ses autres films. J'ai vu aucun d'eux, mais ça m'a donné le goût quand même. Peut-être plus son premier, Haute Tension, que toi t'as écouté.
Ouais, c'est, ben, dans ses premiers, je sais pas si c'était littéralement le premier, avec Cécile de France. Ouais, elle, c'était dans ses premiers rôles, là, juste tout de suite après L'Auberge espagnole. Là, fait qu'un premier grand rôle qui était sur un horreur psychologique, beaucoup d'hémoglobine et tout. Il a fait aussi le remake de Hills Have Eyes en 2006 Craven. À peu près. Mm-hmm. Ouais. Dans ses derniers films, Crawl, avec deux alligators, la mousson, puis là, pogné Barry Pepper, pogné dans le sous-sol, puis je me souviens plus qui joue le rôle de sa fille, on l'a revu dans d'autres films après. C'est un film de monstre, là. C'est un film d'alligators puis d'affaires comme ça, ça doit durer 85 minutes. C'est un peu débile, mais c'est très bien fait dans ce que c'est. C'est bien meilleur qu'un Lac Placide ou une affaire Anaconda, mettons. T'sais, il était beaucoup plus intéressant, c'est quelqu'un qui sait filmer puis mettre une certaine tension. Puis en parlant de savoir filmer, ben, il travaille avec le même directeur photo, le Belge Maxime Alexandre, sur tous ses autres films. Puis Alexandre, ben c'est mêlé. Je voulais l'appeler Alexandre dans son famille. Mais l'autre s'appelle Alexandre. Avec Maxime, a travaillé sur The Nun aussi, un Annabelle, un Shazam. Mais fait que, il est habitué aux scènes très sombres, je pense, puis au code des films d'horreur, puis ces choses-là. Fait que c'est du monde de métier, justement.
Et ça sent à l'écran, honnêtement. Puis les Barry, encore comme Demi Moore, je trouve que c'est un rôle un peu audacieux pour une comédienne, parce que c'est pas un rôle qui la met en valeur, même physiquement.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est pas la Halle Berry de James Bond, là.
Fait que non,
on est ailleurs. Ça. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Puis après ça, reste plus une question si vous embarquez ou non dans la prémisse à la fin. Là. C'est sûr que ça demeure un film à punch. Donc, tout va dépendre peut-être de votre appréciation. Mais dans l'ensemble, c'est beaucoup plus satisfaisant qu'un film comme Tarot, pour pas le nommer.
Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que c'est un peu, dès que le film commence, tu n'as pas le choix de te dire « Hey, c'est-tu juste dans sa tête, finalement, toute cette affaire-là? » Mais le film... le sait que c'est une possibilité, donc joue avec toi à ce que tu te poses la question. Fait que ce jeu-là de se renvoyer la balle est très intéressant. Fait que, comme on dit, au final, je pense que c'est quand même une chute qui est intéressante puis qui vaut la peine d'être vécue comme film. C'est pas un total nanar.
Là, non, vraiment pas. Comme je dis, la prémisse est intéressante aussi, là, de justement savoir si c'est... ça se passe dans sa tête ou non.
Je pense qu'en France, il a gardé son titre de travail initialement, qui est Motherland, donc l'espèce de terre maternelle, qui est aussi très français, comme on dit, d'avoir un nom en anglais, mais qui n'est pas le même nom en anglais. C'est produit, entre autres, par 21 Laps Entertainment, la compagnie du bon Montréalais Sean Levy, qui produit et réalise, qui arrête jamais. Il doit être bien nanti. Il doit avoir une belle voiture, lui, ce mec.
Oui, c'est sûr. ça roule très fort.
Et aussi, première production en tant qu'executive producer pour la boîte Halle Holly, qui est Halle Berry et son ami Holly Jeter, que je ne connais pas. Fait que tu vois qu'elle a kiffé. Hein? Elle a embarqué à fond là-dedans. Pour dire, oui, je joue le rôle principal, je prends des risques, comme tu dis, puis je prends des risques financiers. Puis, fait qu'on va peut-être la voir. Je sais qu'elle avait déjà produit un peu, elle, en tant qu'exécutive, à Berry sur d'autres projets, mais sa boîte Halle Holly, ça, c'est le premier projet pour eux.
Très bien. Sinon, pour les familles ou les grands-enfants, Transformers 1 de Josh Cooley.
Oui, Transformers 1 au Québec. C'est un prequel. On est en animation, on est sur Cybertron et on va avoir des jeunes Megatron et un jeune Optimus Prime, mais qui n'ont même pas encore ce nom-là. En fait, ils n'ont même pas la capacité de se transformer. Ils sont des robots, ils sont sur la planète Cybertron, mais ils sont des robots mineurs, donc ils travaillent dans les mines.
Oui, et non de pas des ados.
Non, c'est ça. fait qu'ils travaillent là, mais ils sentent, et surtout le Orion Pax, c'est lui? Orion Pax, c'est le
Optimus Prime.
Qui a OP finalement, mais oui. Qui veut plus, puis il y a la course des fameux un peu Transformers, ils appellent pas tout à fait comme ça, mais ceux qui sont plus militaires, puis qui sont plus grands, puis plus forts, puis qui peuvent se transformer en vaisseau, puis en affaires de même. Puis il faut participer à ça, il faut montrer qu'on peut s'élever de notre rang social, puis qu'on est autant digne que les autres. Puis en rentrant là-dedans, une fois la course terminée, ils vont se retrouver sur la surface parce qu'ils vivent tous au centre de la Terre. Et sur la surface, ils vont découvrir qu'il y a une espèce de machination parce que la planète Cybertron va pas bien depuis un bout parce que les anciens, j'oublie tout le nom des robots, là, mais les anciens genre de héros qui ont construit la Terre, ben, qui ont formé la planète, ouais, les Primes, sont tous disparus, ils sont tous morts, fait qu'il reste juste un leader, puis ils vont réaliser qu'il y a peut-être Anguille Souroche dans toute cette histoire-là, mais ce qui va aussi éventuellement les mener à alors qu'ils sont les meilleurs amis, à être en désaccord sur peut-être la manière de procéder, un peu comme un genre de X-Men First Class avait fait entre Magneto et Charles Xavier.
Effectivement, donc on raconte justement ses origines, du conflit entre Megatron et Optimus Prime, qui sont ennemis depuis Depuis les débuts de
la création. Oui, c'est ça. Ben, jusqu'à temps que ça devienne des Autobots et des Transformers. Autobots puis Decepticons, c'est ça.
Donc, Josh Cooley, le réalisateur, est celui qui avait fait Toy Story 4.
Ouais.
C'est quand même un projet. On blaguait un peu en voyant le film. Tu disais, ah, c'est le genre de film qui ont dû. C'est qu'il a dû être annoncé il y a longtemps, puis que ça a pris du temps à faire. Ben effectivement, fait que ça remonte à 2017 quand même,
okay, ouais.
Qu'on avait annoncé la mise en chantier. On avait créé
ça veut dire qu'il y a eu quasiment... Il y a eu deux Transformers, ouais. Même trois depuis. Il y a eu Bumblebee puis
ouais.
Rise of the Beast de l'an passé.
Ouais. Ouais, parce qu'on avait créé un writer's room, donc...
un gros brainstorm.
Ouais, plusieurs scénaristes se joignent pour lancer des idées, créer des histoires et tout ça. Donc, justement, cette histoire-là est née de deux scénaristes. Donc, on avait en 2017, mais bon, tout ça a pris du temps avant que ça prenne forme.
Ouais, puis un film d'animation, on ne fait pas ça en 70 jours. Là,
non, c'est... effectivement. Mais j'étais curieux de voir, est-ce que c'était vraiment... Donc, ça faisait partie de l'univers des films Transformers en prise de vue réelle, là, qu'on connaît depuis, je pense, 2007-2008, dans ces années-là,
ouais,
le premier. Là. Donc, effectivement, c'est confirmé que ça se veut vraiment. En fait,
c'est canon, hein, tout ça.
C'est canon, puis écoute, ça se passe 3 milliards d'années avant le premier film. Donc, en masse,
ah, ils sont vieux de même,
en masse,
les robots,
ouais,
okay.
Apparemment. Donc, en masse de jus pour faire plusieurs films. En fait, c'est confirmé. On veut en faire une trilogie. L'histoire serait développée. Le box-office va faire foi de tout pour voir s'il y aura une suite ou non. Et les producteurs ont quand même expliqué, parce qu'il faut dire, dans la version originale anglaise, c'est Chris Hemsworth qui fait la voix d'Optimus Prime. Ce qui a amené un petit scandale.
D'habitude, c'est Peter Cullen.
Peter Cullen qui fait la voix depuis 1984, depuis la première série animée même.
C'est ça. Puis dans les films de vue, les films en prise de vue réelle, c'est lui aussi.
Effectivement. Là. Mais on a expliqué que oui, c'était voulu d'avoir, comme il dit, un peu plus jeune, une voix un peu plus jeune, mais qu'il y aurait...
aussi un peu plus connu, là, un peu plus populaire.
Ça, c'est
là,
sûr t'sais. Aussi, on s'entend. Mais qu'il y aurait une évolution logique qui amènerait donc à cette voie-là plus tard de Optimus Prime plus âgé. C'est quand même le deuxième long métrage animé de Transformers. Le premier date de 86.
Ouais,
quand
ça, c'était lui que le méchant, c'était la voix de.
C'était Orson Welles.
Orson Welles, c'est
ouais,
ça,
ouais,
exact. Là.
Qui faisait le. C'était Cybertron, même, je pense qu'il faisait. Oui, non, il faisait Unicron.
Ouais, c'est ça, un genre de planète soleil.
Ouais,
là,
c'est ça. Puis il était décédé 5 jours après avoir enregistré. Enregistré sa.
Ah, ça fait que c'est ça, c'est
voix.
Son dernier projet, dans le fond.
Oui, oui, tout à fait. Mais la grosse controverse du Transformers de movie, qui avait été quand même un échec commercial, même si les jouets roulaient à fond, tout ça, on avait tué Optimus Prime dans le film.
En fait, on n'avait pas un plan de trilogie. Là.
Hasbro voulait vraiment tuer toute la première génération de personnages de Transformers.
Optimus Second.
Faire un reset puis revendre des nouveaux jouets, bien sûr, avec la nouvelle génération. Parce que dans le film, c'est un mix de nouveaux personnages puis des plus anciens. Mais ça a fait que les enfants ont capoté leur vie parce qu'ils étaient tellement attachés à Optimus Prime. Fait que les producteurs puis studios ont sous-estimé ça, malgré l'avis d'un des scénaristes qui disait « Vous faites une grosse erreur ». Mais on le fait quand même. Fait que les enfants pleuraient, sortaient du cinéma. Ils ont reçu beaucoup de plaintes des parents. Qu'est-ce qu'on a fait? L'année suivante, dans la série animée, on a ramené Optimus Prime. On a trouvé une façon de le ramener à la vie. Fait que dans les mauvaises décisions marketing, des fois, là, on entend ça. C'est comme le nouveau Cope ça, des années 80.
Ouais, ouais.
Je pense que la mort d'Optimus Prime peut aller là-dedans. Dans...
Ouais, c'est radu. C'est une clause de jurisprudence maintenant.
Ouais,
là,
ouais,
genre,
c'est
attention,
ça. Faites attention aux personnages qui sont bien aimés. Donc voilà pour Transformers 1. Écoute, c'est vraiment quand même un film très léger que je pense que les jeunes enfants...
Bien,
oui,
c'est ça. Puis c'est une belle qualité d'animation là-dedans aussi.
Oui, puis tu sais, c'est pas... c'est très classique, mais c'est pas classique mal fait.
Mm-hmm.
Puis je pense que les plus jeunes vont apprécier, vont passer un bon moment. Puis je pense les commentaires, j'ai vu un peu aussi. Je pense que les fans de la première heure qui ont mon âge, mais moi, je ne suis pas, j'ai jamais trippé Transformers, honnêtement. Je pense qu'ils
trop
semblent apprécier.
Trop occupé avec
Star Wars. Non, Star Wars, c'est déjà fini à cette époque-là. Okay. Moi, j'étais full G.I. Joe dans ces années-là. Là. Fait que voilà. Puis écoute, même au niveau des critiques.
Une chance que les films de G.I. Joe sont bons.
Ben, même le dessin animé n'avait fait un.
Oui, mais là, en plus, ils vont faire le
Transformers G.I. Joe.
Ouais, c'est ça. C'était ça la fin de Rise of the Beast. Le multiverse.
Fait que non, j'ai jamais été bien servi dans mon fandom de G.I. Joe. Mais qu'est-ce que j'allais dire donc
Je sais pas, je t'ai brisé avec tout ça. On parlait des bons côtés du film. Là, que...
Ah non, je parlais des critiques, c'est ça, oui, qui sont quand même vraiment positifs. Je pense que dans ma 89-90 sur Rotten Tomatoes, qui est quand même assez genre, assez rare pour ce genre de film-là, et surtout pour un Transformers. Là, je pense que juste Bumblebee qui est positif.
Ouais, puis le
là.
Premier, peut-être.
Peut-être, là. Je
dois être sur la frise, là, peut-être.
Ouais, peut-être. Fait que voilà, pour Transformers The One. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter.
Non. Écoute, ça reste quand même... Même si t'es pas si fan, c'est toi le spécialiste de ce genre d'affaires-là, je trouve. Je peux vous parler d'une autre sortie. Ouais. Si seulement je pouvais hiberner de... Oh, je me suis pas pratiqué à lire. Zoljargal Purifdash.
Ah, pas si mal.
Et c'est à prendre au pied de la lettre. C'est un film mongol. Alors, pas dans le sens péjoratif.
Que j'aurais aimé voir, que j'ai pas vu, mais j'aurais aimé ça.
Ouais, à un moment donné...
La bande-annonce, c'était quand même intéressant.
C'est ça, il y a juste 5 journées dans une semaine. Semaine ouvrable. On est à Oulan-Bator, en Mongolie, et on va suivre un adolescent qui se découvre une espèce de, pas un don, mais une bonne aptitude pour les sciences et surtout principalement la physique. Sauf que lui, il vit avec ses 3 frères et sœurs et sa mère qui est monoparentale dans un genre de yourte qui ont de la misère à chauffer. Fait qu'ils sont comme en banlieue de ce centre-ville-là, fait qu'on est vraiment dans une classe sociale très pauvre. Mm-hmm. Fait qu'il va rapidement, un peu dans le film, avoir à choisir entre ses études puis qui vont demander un temps puis un investissement pour aller vers éventuellement qui mènerait un bon emploi avec une bonne source de revenus, tu sais, dans, je sais pas, 10-12 ans après l'université puis tout. Ou là, dans l'immédiat, aider sa famille qui a de la misère à manger, qu'il y en a un qui est malade, que c'est l'hiver, il fait frette puis ils respirent de la fumée de charbon à journée longue à chauffer leur petite yourte. Fait que c'est comme cette charge-là qui est sur cet ado-là. C'est donc un coming of age, un récit d'apprentissage, mais qui est super intéressant parce que, on est dans un lieu qu'on connaît du tout.
Une culture étrangère.
Que tu comprends qu'il a aussi travaillé tout l'été pour se payer des souliers Nike puis qu'ils usent à la corde, mais même l'hiver. Mais nous autres, si on met des sneakers l'hiver quand même. Mais on change nos Nike pas mal plus souvent. Lui, c'est le big deal et tout. Fait que, mais il est quand même très empathique à aider ses frères et ses sœurs, même s'il est plus en conflit avec sa mère, justement, parce qu'étant plus vieux, il la voit plus pour ce qu'elle est, qu'elle a des problèmes d'alcool, qu'elle n'est pas solide sur ses deux patins. Fait que ça le place au milieu de tout ça, de vivre son adolescence, mais de penser au suivant, de devoir maturer rapidement.
Oui.
Ce qui est cool aussi avec le film, c'est que c'est très réaliste, c'est-à-dire que c'est pas Will Hunting non plus. Quand je dis qu'il commence à faire des compétitions de physique, puis tout, puis il finit 7e, puis il finit 6e, puis ça va bien, puis on l'encourage. Il n'est pas premier, il n'est pas rendu
à Harvard à la fin.
Non, c'est ça, exactement. T'sais. Fait que ce côté-là est très intéressant. C'est pas trop mélodramatique.
Ouais.
Ça avait été présenté à Cannes, mais 2023. Fait que je pense que c'est dans les derniers films là, qui ont été acquis qu'on n'avait pas vu encore de l'autre Cannes d'avant.
Mm-hmm.
Fait que, bref, comme tu l'as pas vu, j'en parlerai pas trop, mais c'est ça. On est dans les thèmes de l'alcoolisme, la pauvreté, la pollution, l'exode des peuples nomades, les écarts de richesse, la solidarité aussi entre les gens. Fait qu'il se fait beaucoup aider par ses voisins, mais il n'ose pas trop demander. S'ils disent « Hey, viens nous voir, c'est un problème », il n'ira jamais les voir. Mais il va se rendre compte que le crime, ça fait 3 jours, vous n'avez pas mangé. Viens donc, je t'invite. Puis là, il se goinfre au restaurant. Puis tout, c'est super cool. Autre film international. Fait qu'évidemment, c'est disponible en version originale avec sous-titres français. Autre film, et ça avait été présenté au FCVQ. Festival de la Ville de Québec. Mais là, c'est disponible partout, à Montréal et tous les cinémas qui jouent ce genre de film ou en film répertoire. Et un autre film international, cette fois de l'Espagne, « En bonne compagnie » de Sylvia Munt. Ça, je m'en confesse. Moi non plus, j'ai pas eu le temps de le voir. On est au Pays Basque, fin des années 70, 2 ans après la mort de Franco. Puis une espèce de grogne qui s'empare des rues espagnoles. Puis au milieu des revendications, la jeune Béa va rejoindre un groupe militant pour le droit à l'avortement, qui était alors illégal. Alors, tandis que la lutte féministe prend une place de plus en plus importante dans sa vie, l'adolescente va se lier d'amitié avec la pétillante Myrène, qui est une fille de bonne famille, mais qui va annoncer à Mira qu'elle est enceinte, justement. Fait que la nouvelle va justement chambouler leur existence au milieu de tout ce capharnaüm. Fait que c'est aussi, on est quand même dans le récit d'apprentissage aussi là-dedans un peu, mais qui rend hommage aux féministes et au féminisme des années 70-80. et que c'est jamais fini, hein, les luttes pour le droit à l'avortement, les droits des femmes, l'égalité des sexes et tout. Fait que faut en parler pour se rappeler qu'il y a encore des problèmes.
Et à noter pour les amateurs de La Casa de Papel, okay. La comédienne, c'est elle qui jouait la détective qui courait après le professeur.
Ah ben tu vois, j'ai pas écouté cette série, alors je reconnais pas ces faces-là. Autre film qui prend l'affiche cette semaine à Montréal et qui a joué au Festival de Québec, c'est le documentaire « À hauteur d'enfant » de Mélanie Carrier et Olivier Higgins, qui avaient fait « Errance sans retour » il y a quelques années. Cette fois-ci, pendant à peu près 4 ans, ils ont filmé leurs enfants, Béatrice et Émile. Émile qui doit avoir pendant 4 ans, fait que ça évolue, là, mettons entre 5 puis 8 ans, puis Béatrice entre 3 et 7 ans, genre. Fait que ça s'appelle « À hauteur d'enfant » parce qu'ils filment leurs enfants dans leur quotidien, ils filment à l'école, fait qu'ils ont eu l'autorisation de la maternelle. Ils pognent un peu, c'est pas un film sur la pandémie, mais évidemment, ils pognent un peu la pandémie où là, ça se passe sur Zoom, les classes, etc. Puis c'est juste comme les réflexions de leur enfant, leur façon de voir la vie, leur façon de voir d'être la prise de conscience d'être un enfant, c'est quoi le rôle d'un parent dans un truc super charmant qui dure 90 minutes, là, même pas. Là. Fait que c'est vraiment un film très touchant. C'est sûr que le nouveau papa en moi se pose beaucoup de questions sur comment bien élever mes enfants, comment être mon rôle de père, mon rôle de parent dans tout ça, etc.
Là. La clé, c'est de les attacher à un câble. Ben il y a ta maison, puis ben c'est pas sorti.
Tu leur montres rien, t'es préviens de tout vice en leur cachant la drogue, la sexualité, le rock'n'roll. Faut qu'ils soient au courant de rien. Ou l'inverse, tout de suite tes garoches dans fausse au Lyon. C'est ça.
Et mais les plus forts vont survivre.
Exactement. Fait que je sais que t'as pas encore eu l'occasion de voir le film. On pourra en rejaser la semaine prochaine si tu le vois à ce moment-là. Mais si vous avez accès à Montréal ou quoi que ce soit, très très beau film que je... Des fois, c'est un genre complètement différent, fait que ça glisse, puis tranquillement, ça descend de mon top de l'année, là, mettons. Ça pourrait être resté dans le top 10, top 5, des fois, il y a des films plus forts, mais c'est comme la bonne année pour que ce film-là me touche beaucoup, fait que peut-être qu'on en reparlera début janvier quand on aura nos tops. Fait que c'était assez pour cette semaine, puis écoute, j'étais pris dans mes notes, j'ai oublié de mettre à jour qu'est-ce qui sort la semaine prochaine. On a notamment Robot Sauvage, de Wild
Megalopolis.
Robot. Megalopolis,
Francis Ford Coppola, son grand retour.
Qu'on en parle un peu comme justement de Substance, mais de façon plus mitigée, mais depuis que je joue à Cannes, en fait, depuis que Coppola a tout vendu pour financer ce film-là, on en parle.
Ouais.
Fait qu'en curieux de voir cette grande fresque audacieuse. Ça et The Wild Robot, Robot Sauvage, film d'animation qui a l'air très très beau d'ailleurs.
D'excellentes critiques aussi. Là,
Puis gros automne, fait que sûrement 6 autres films qu'on essaiera de voir et de discuter. Fait que pour nous contacter, comme d'habitude, écrivez-nous au balado@commercialmonciné.ca et procurez-vous gratuitement le magazine Monciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Et vous pouvez, s'il vous plaît, aller nous suivre maintenant, Magazine Mon Ciné sur Facebook et sur Instagram. Et je vais recommencer à publier aussi des updates du balado là-dessus. Fait que on arrive là, tu sais, ça nous fait pas paraître trop vieux d'arriver sur Facebook en 2024, presque 2025.
Alors que c'est pratiquement fini Facebook, c'est mais ça. C'est pas grave.
Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est quand même pratique, je trouve, pour diffuser, mais je suis pas dans les autres affaires, mais tu sais, c'est ça. Je sais que Twitter, X, c'est une autre game, mais en même temps, plein de monde le quitte depuis que c'est X, puis que c'est plus Twitter. Fait que là, faut-tu aller sur Threads, mais en même temps, j'ai pas envie d'être le pionnier d'un média
social. On se part de quoi de nouveau? Je pense qu'on est rendu là.
Ben, il y a pas la lutte qui avait essayé de faire ça, amener la WWF. Ben, il y avait comme un nouveau média social, puis eux étaient embarqués à fond là-dessus. Okay. À un moment donné, c'était rendu une chambre d'écho. Il y avait juste eux qui criaient. Trump aussi avait pas parti.
Son Truth Social.
Ben, c'est ça. On pourrait aller. Nous, on dit la vérité, puis on parle de bonne fois du cinéma, vu qu'on pourrait aller sur Truth. Bref, visitez le Facebook, le Instagram et le monciné.ca pour plus d'informations.
Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, puis acceptez donc que vous vieillissiez dans la vie. Ça va vous éviter bien des problèmes.
Tout le monde est beau et belle.